Bonsoir et bienvenue dans cette édition du 19h. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information dans l'actualité ce soir. Les hôpitaux vont-ils tenir le coup? Le nombre de patients Covid en réanimation continue d'augmenter. Le nouveau régime de confinement mis en place depuis ce week-end doit permettre de faire baisser le nombre de malades en réanimation. Certains médecins doutent de l'efficacité de ce confinement à l'air libre. Le professeur Gilles Pianou, infectiologue réputé, se dit atterré. Vous entendrez Gilles Pialou dans un instant. La colère des commerçants de jeux vidéo fermés comme les magasins du textile et de l'habillement. Une décision incompréhensible, disent-ils. La liste n'est pas figée, elle peut évoluer, dit ce soir le gouvernement. Un an de télétravail et les cabinets d'ostéopathes qui font le plein de patients. Dominique, en travail à distance depuis plusieurs mois, se plaint de douleurs au cervical.
On n'a pas le même matériel et c'est vrai que forcément le positionnement n'est pas adapté.
Dans ce journal également, l'Australie confrontée à des pluies diluviennes du jamais vu depuis 50 ans. Le droit de vote dès 16 ans en France pour les municipales et une bonne nouvelle, on l'espère, pour les pandas du zoo de Beauval. Vos rendez-vous du 19h. La page sport avec au menu du football, 30e journée de Ligue 1 et une lutte acharnée en tête du championnat. Ce soir, défaite de Lille 2-1 face à Nîmes. On reviendra également sur le match de légende hier soir entre la France et le Pays de Galles en rugby. Et bien sûr, coup de chapeau à Alexis Pinturo, vainqueur de la Coupe du Monde de ski. Notre coup d'œil sur l'agenda et les temps forts de l'actualité de la suivre la semaine prochaine. Et puis, c'est mon actu, Sandrine Houdin, avec un témoignage rare et touchant. Marie-Lou, 104 ans, vaccinée contre le coronavirus. La météo pour demain, du soleil et du vent près de la Méditerranée, des nuages partout ailleurs et des températures encore fraîches pour un début de printemps. Jean-Michel Golinski, à la fin de cette édition à 19h30, les petits bateaux. Noël Bréham.
Bonjour Noémie, je voulais savoir s'il était possible de pouvoir apprivoiser un cochon.
Les petits bateaux à 19h30 après le journal.
France Inter.
Ce premier week-end de reconfinement ou de mesures de freinage de l'épidémie selon les termes du gouvernement a été bien chaotique dans les 16 départements soumis à ce nouveau régime de restriction. Il y a eu la polémique sur les attestations de sortie jugées trop compliquées qui ont été simplifiées. Les critiques également dans la classe politique qui estime que les mesures prises ne sont pas compréhensibles. Un premier week-end où un Français sur trois est confiné dehors. De nouvelles restrictions prises pour faire baisser le nombre de malades Covid en réanimation dans les hôpitaux, mais certains médecins doutent de leur efficacité. Le professeur Gilles Pialou, chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon, à Paris, pousse un véritable cri d'alerte. Ce nouveau régime de confinement n'est pas à la hauteur de l'enjeu face à la troisième vague de l'épidémie. Gilles Pialou avec Véronique Julia.
Nous, on est atterrés. Hein. On est atterrés parce qu'on sait qu'on est à un très haut niveau en Île-de-France. Et on n'est plus à voir les 15 jours ou les 3 semaines difficiles. Nous, on est plutôt en train de voir les mois qui viennent difficiles. Pour vous donner un exemple concret, l'assistance publique a créé ce qu'ils appellent le plan surprise, qui est vraiment une aberration d'appellation, mais bon. Le plan surprise, c'est 2100 patients en réanimation en Île-de-France, à peu près pour mi-avril. Donc ça, c'est le plan auquel ils nous demandent d'être préparés. Et ben, aucune influence, si vous voulez, sur ce plan des mesures qui ont été annoncées, dont je n'arrive pas à savoir d'ailleurs si c'est des mesures de confinement, de couvre-feu ou de couvrement. Enfin, il y a plein de jeux de mots sur les réseaux sociaux, confi-feu, etc. On a fait un melting pot de demi-mesures. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Sincèrement, un couvre-feu qui est retardé d'une heure. Donc, comprenez bien que là, on est parti. Enfin, il faut que quelqu'un dise aux Français, on accepte d'avoir perdu le fil de la pandémie. On diminue juste un peu la pression de la soupape par des mesures adapté, soi-disant, parce que moi je demande qu'on me donne des montres, hein, à l'attente des Français et à leur niveau d'acceptation. La vérité, c'est que la pandémie, on laisse l'épidémie s'étendre. Il faut que ça soit dit clairement comme tel, c'est un choix politique.
Le professeur Gilles Pialou avec Véronique Julia. Et ce soir, 4406 patients atteints du coronavirus se trouvent dans les services de réanimation en France. 53 malades de plus en 24 heures, selon les chiffres donnés par le ministère de la Santé. Autre point de crispation, de colère même pour les commerçants qui ont dû fermer leurs magasins. Après les secteurs du textile et de l'habillement, c'est aujourd'hui le secteur des jeux vidéo qui conteste la fermeture de ces magasins. Décision incompréhensible, disent-ils, alors que le jeu vidéo vidéo et le premier bien culturel en France. La liste n'est pas fermée, explique aujourd'hui Alain Griset, selon le ministre chargé des petites et moyennes entreprises. Cette liste de commerces a resté ouvert, autorisée à rester ouvert, pourra, dit-il, évoluer en cas d'aberration. Claire Chaudière.
30 millions de joueurs, désormais autant de femmes que d'hommes et un chiffre d'affaires de 5,3 milliards d'euros en 2020. Certes, l'industrie du jeu vidéo n'a pas souffert de la crise sanitaire, bien au contraire, elle a gagné ces derniers mois du temps de cerveau disponible, mais ses porte-paroles, par la voix du CEL, le syndicat des éditeurs de jeux, dénoncent aujourd'hui un énorme contresens, argument repris au sein même de la majorité par le député Denis Masseglia, président du groupe d'études jeux vidéo à l'Assemblée nationale, interrogé sur France Info.
Pourquoi l'industrie du jeu vidéo, qui est la première industrie culturelle française, est mise à part par rapport aux autres industries culturelles? Parce qu'en plus, ça crée des situations assez extraordinaires. On a un grand magasin de vente de produits culturels en France qui vend des livres, qui vend des CD, qui vend des consoles de jeux vidéo, mais qui ferme uniquement la partie jeux vidéo. C'est quelque part incompréhensible.
Incompréhension, voire indignation partagée à gauche par Jean-Luc Mélenchon, invité ce dimanche sur France Inter.
C'est un domaine dans lequel brillent les Français. Alors on ouvre les librairies. On ouvre les disquaires. Ah, et les jeux vidéo. Précisément, quand on se confine, c'est une des activités auxquelles on se livre le plus volontiers.
Et si une part des ventes de jeux peut se faire de manière dématérialisée, beaucoup, rappelle le syndicat des éditeurs de jeux vidéo, sont encore achetés aujourd'hui dans des points physiques et de proximité.
Claire Chaudière, et l'une des règles en entreprise pour éviter les contaminations, c'est le télétravail. Le Premier ministre Jean Castex l'a rappelé, 4 jours de télétravail à distance par semaine, c'est la règle quand les métiers le permettent. Mais le télétravail a parfois des conséquences sur notre santé physique. En Alsace, par exemple, le travail à la maison pendant le confinement et le manque de sport poussent de plus en plus de personnes chez les ostéopathes. Les patients se plaignent de nouvelles douleurs liées au télétravail dans les cervicales, au niveau des coudes, dans les bras et au bas du dos. Dans les entreprises, le télétravail va continuer. Il va donc falloir changer nos habitudes. Mélanie Kuzilevich s'est rendue chez un ostéopathe de Strasbourg.
Et dès le début de la séance...
On voit que si on fait ça, ça c'est la position de madame devant son ordinateur. À 20h30 le soir.
C'est vrai que la tête en avant, c'est terrible.
Dominique Guenot, chercheuse au CNRS, vient faire soigner des douleurs aux cervicales qui sont apparues depuis qu'elle travaille chez elle régulièrement.
On n'a pas le même matériel et c'est vrai que forcément le positionnement n'est pas adapté.
Et ce n'est pas la première patiente à venir pour des douleurs liées au télétravail. Alain Gauthier, son ostéopathe, en voit souvent depuis un an.
Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est plutôt le fait que ça met en valeur la façon qu'ont les gens de ne pas bien prendre en compte leur poste de travail. Tout le monde connaît les règles. Tout le monde a vu les positions, les angles, les chaises, les trucs, les machins, mais personne ne le fait.
Pour l'ostéopathe, l'important, c'est surtout d'être le plus posé possible devant son écran, qu'on soit au bureau ou à la maison.
La première des choses, c'est qu'il y a un dossier. Le principe du dossier, c'est normalement de reposer le dos. Ce qui est important, c'est que vous puissiez poser tous les étages du corps de façon à ce qu'il soit avec le moins de contraintes mécaniques et le moins de force possible. Et plus vous êtes posé, plus votre tête est posée. Plus vous êtes disponible pour votre travail et votre performance.
En plus des patients en télétravail, elle reçoit aussi des patients tout simplement crispés par le Covid.
Mélanie Kuzilevich, France Bleu Alsace. À l'étranger, en Australie, du jamais vu depuis 50 ans, des pluies diluviennes se sont abattues sur la région de Sydney, provoquant les pires inondations depuis un demi-siècle, des centaines de maisons endommagées, des routes fermées, les écoles fermées également, des milliers de personnes évacuées. Les pluies vont se poursuivre pendant encore plusieurs jours, Louise Boudet.
Rescued by helicopter.
Sur les chaînes de télé australiennes, des images d'évacuation en hélicoptère, de trombes d'eau déferlant dans les maisons, engloutissant les routes, brisant les arbres. Selon les services d'urgence australiens, plusieurs centaines de maisons ont été endommagées, notamment au nord-ouest de Sydney, une zone de faible altitude. Des milliers d'habitants ont dû quitter leur domicile, de nombreuses routes sont fermées et plusieurs barrages, dont celui de Warragamba, la principale source d'eau de Sydney, ont débordé, faisant encore monter le niveau des rivières. Du jamais vu depuis un demi-siècle, précise la première ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian.
Hier, nous espérions que ce serait un record de 20 ans. En fait, on s'achemine vers un record de 50 ans. Nous appelons chacun d'entre vous à continuer à vous informer et à respecter les consignes d'évacuation.
Un an après les incendies monstres qui ont frappé l'Australie pendant de longs mois, ces pluies diluviennes sont qualifiées de désastre national. Elles devraient encore s'intensifier demain au nord de Sydney et durer au moins jusqu'à jeudi, au risque de retarder la première grande phase de la campagne de vaccination contre le Covid qui doit débuter demain pour le grand public.
Louise Baudet, en bref en politique, la question d'une pré-majorité pour faire évoluer nos villes est posée aujourd'hui par une centaine d'élus. Dans une tribune publiée par le journal du Dimanche, les élus, des députés, des maires ou d'anciens secrétaires d'État appellent à accorder le droit de vote à 16 ans aux municipales. C'est le sens de l'histoire, disent-ils. Ce sujet n'a pas évolué depuis l'abaissement de la majorité à 18 ans en 1974. Une bonne nouvelle maintenant qui nous vient du zoo de Beauval dans le Loir-et-Cher et qui espère remplir la rubrique carnet rose des bébés pandas. Wan Wan, la femelle panda prêtée par la Chine au zoo de Beauval, a été mise en contact à 8 reprises ce week-end avec le mâle Wanzi. Les deux pandas se sont accouplés. Les soigneurs du parc indiquent que les animaux se sont montrés coopératifs et plus intéressés que les années précédentes, notamment le mâle. L'accouplement de pandas est toujours un événement. La femelle n'est féconde que 24 ou 48 heures chaque année et il ne reste que 2000 pandas à l'état sauvage en Chine. 500 pandas environ en vivent en captivité. Fossil Calmel a pu joindre Baptiste Mulot, responsable vétérinaire du zoo de Beauval. Il a supervisé toute l'opération.
On a notre femelle panda géant Juan Juan qui, il y a quelques semaines, a démarré un changement de comportement en fait et qui était indicateur de chaleur. Donc on a mis en place tout un dispositif d'observation qui nous a amené hier en fait, puisque c'était la journée de son ovulation. Ça a la particularité en fait de n'arriver qu'une seule fois par an. En milieu de journée, on a commencé en fait de mettre le mâle et la femelle dans la même pièce. On a des individus qui ont un peu plus de 12 ans là, et qui commence vraiment à être mature sexuellement. On a un mâle qui était plutôt maladroit les années passées, et qui là, cette année, en fait, s'est bien positionné, a bien interagi avec la femelle. C'était très positif, mais malheureusement, c'était probablement pas suffisant. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'après, derrière, on a fait une anesthésie générale du mâle, puis de la femelle, pour inséminer, en fait, la femelle. Si cette année, on a à nouveau une ou voire deux naissances, ce ne serait que le deuxième ou la deuxième bébé panda né en France, voire peut-être les premiers jumeaux panda. Et donc chaque naissance compte.
Voilà l'amour des pandas, Baptiste Mulot du zoo de Beauval. Il faut maintenant donc attendre 2 à 3 semaines pour savoir si Wan Wan et Yuanzi auront un bébé ou des jumeaux, comme l'a dit Baptiste Mulot. En tout cas, on vous tiendra au courant. Sur France Inter, la page sport de cette édition. Bonsoir Vincent Pellegrini.
Bonsoir Fadaïk.
La Ligue 1, le football, la lutte est toujours aussi intense en tête du classement. Et ce soir, duel sous tension entre l'Olympique Lyonnais et le PSG.
Oui, ces deux équipes pointent à 3 points du leader Lille qui vient de s'incliner à domicile de 2-1 face à l'avant-dernier Nîmes. Et Monaco n'est qu'à 1 point des Lyonnais et des Parisiens. Bonsoir Alexandre Vaux.
Bonsoir Vincent.
Vous êtes en direct de Lyon. Alors cette équipe du PSG va jouer quasiment sa saison à l'occasion de ses 3 prochains matchs à son programme, Lyon, Lille et le Bayern Munich.
Exactement, déjà ce soir chez les Lyonnais, 3e, qui compte d'ailleurs le même nombre de points que Paris, second Paris, avec Neymar de retour de blessure. Match suivant dans 15 jours après la trêve internationale en recevant le leader lillois, vous l'avez dit, qui n'a plus qu'une victoire d'avance. Et puis 4 jours plus tard, quart de finale aller de Ligue des Champions sur le terrain du champion d'Europe en titre, le Bayern Munich. Tout est jouable encore pour Paris, s'il y a d'abord un succès ce soir. D'ailleurs, Paris peut redevenir leader de Ligue 1, tout comme Lyon, d'ailleurs, dans cette Ligue 1 complètement folle cette saison. Mais attention, le triple champion de France en titre, n'a pas réussi pour l'instant à battre un seul de ses concurrents directs pour le titre, ce qui signifie donc qu'à l'inverse, Paris peut perdre ce soir beaucoup dans ce match face à Lyon et qui pourrait même, dans cette course à la qualification pour la Coupe d'Europe la saison prochaine, ne pas se qualifier pour la Ligue des Champions, ce qui n'est plus arrivé à Paris depuis 9 ans et l'arrivée des Qataris au PSG.
Voilà, Lyon-PSG, coup d'envoi à 21h. La Ligue 1 en pause pendant 2 semaines, car débute la semaine prochaine les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. L'équipe de France recevra l'Ukraine mercredi avant de se déplacer au Kazakhstan et en Bosnie.
Et Vincent, on revient sur le match de légende d'hier soir et la fin de match renversante et les espoirs de victoire dans le tournoi destination pour le 15 de France.
Ouais, les Bleus ont fait vibrer leurs supporters hier soir, un succès 32-30 arraché dans les tout derniers instants face à des Gallois qui visaient le grand chelem. Deux essais dans les trois dernières minutes. Retour sur une folle soirée avec l'un des acteurs de cette victoire, le pilier Cyril Baye, que Fanny Lechevestrier vient de joindre.
Une victoire et surtout une fin de match qui va marquer durablement le pilier du Stade toulousain. Cyril Baye le voit presque comme un acte fondateur dans la construction de cette jeune équipe de France.
Match fou, et je pense que tout le monde l'a vécu et c'est le genre de match voilà, qui confirme aussi notre cohésion, le fait qu'on s'est tous coopérés entre nous et c'est là qu'on va chercher cette force mentale, je pense. Le fait de gagner ce genre de match vraiment nous aide à grandir. Bien sûr que c'est extraordinaire de vivre des moments comme ça.
Mais pas question pour autant de se laisser griser, même quand votre sélectionneur Fabien Galthié vous qualifie de l'un des meilleurs pilier gauche du monde.
C'est des mots qui font plaisir à entendre, mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer à bosser, parce que voilà, moi je joue pilier, je sais très bien que pilier d'un week-end à l'autre, ça peut être très compliqué, surtout avec les mêlées, donc c'est clair que ça fait plaisir à entendre, mais j'ai encore beaucoup de travail pour être bon le week-end.
Et même dès vendredi, avec le rêve de remporter le tournoi en cas de large succès face à l'Écosse, pour lui, plus rien n'est impossible.
On est prêt en donnant tout sur le terrain, je pense que c'est notre maître mot voilà, de tout donner. Voilà, on a quelque chose de beau à aller chercher, donc ça se jouera aussi dans la tête.
Cyril Baye, qui a longtemps joué au football, ne changerait en tout cas sa place aujourd'hui pour rien au monde.
Là, non, mais les moments que je vis en ce moment, franchement, non. Même si c'est un sport que j'aime bien regarder, voilà, on vit des moments quand même extraordinaires avec ce groupe. C'est assez incroyable.
Fier et heureux, ajoute-t-il, d'avoir pu procurer de la joie aux supporters, encore tenus éloignés des stades.
Alors pour gagner le tournoi, le 15 de France devra battre l'Écosse vendredi soir d'au moins 21 points en inscrivant un point de bonus offensif. Le 15 de France qui sera privé de l'ouvreur Mathieu Jalibert qui a subi une commotion hier au Stade de France.
Et puis Alexis Peintureau est entré ce week-end dans l'histoire du ski français. Il a remporté le classement général de la Coupe du Monde de ski.
Oui, et soulevé le gros globe de cristal, vainqueur hier du géant des finales de Coupe du Monde à Lenzerheide. Peintureau a terminé troisième du slalom aujourd'hui, derrière un autre Français, Clément Noël. Le skieur de Courchevel rejoint ainsi au palmarès Jean-Claude Killy et Luc Alphand. Et pour beaucoup, il est déjà le meilleur skieur de l'histoire du ski français. Guillaume Batin.
Sur le papier, le palmarès de Jean-Claude Killy est un cran au-dessus de celui d'Alexis Peintureau. L'argent et deux fois le bronze olympique pour le plus jeune face au triplé en or de Killy. Malgré cela, dans le milieu du ski, le numéro un, c'est bien Peintureau. Fabien Saguez, le directeur technique national de la Fédération française de ski.
Quand on voit qu'il a été capable de gagner dans 6 disciplines différentes, quand on voit le nombre d'épreuves par saison aujourd'hui qu'il est capable d'assumer, pour moi aujourd'hui, c'est le plus grand skieur de tous les temps en France.
Peintureau, c'est aussi 34 victoires en Coupe du Monde, 74 podiums, trois fois plus que Killy. Jean-Baptiste Grange, le double champion du monde de slalom qui prend sa retraite aujourd'hui.
C'est sûr que c'est la polyvalence même, c'est une bête physique, c'est une bête aussi de travail. L'athlète complet et parfait, on va dire. C'est le plus grand skieur qu'on ait eu en France.
Chez les skieuses de l'équipe de France aussi, le meilleur, c'est où ce sera très bientôt. Peintureau.
Oui, sa polyvalence m'impressionne, la densité des coureurs, le nombre de courses aussi qu'il peut y avoir. Clairement, il est loin d'avoir terminé ses exploits et on a hâte de voir la suite.
À seulement 30 ans, Alexis Peintureau a encore de belles années devant lui. L'an prochain, les Jeux Olympiques de Pékin seront son objectif numéro 1 et dans 2 ans, à domicile, les Mondiaux de Courchevel, de quoi mettre un terme au débat. À Lenzerheide, Guillaume Batin, France Inter.
La Coupe du Monde de biathlon, la dernière course de la saison remportée par un Français, Simon Détieux s'est imposé dans la Mass Start d'Östersund en Suède.
On va maintenant prendre des nouvelles d'un grand champion de natation, un champion à la retraite, pas toujours doré, et qui veut revenir dans les bassins. Jérémy Stravius, 4 fois champion du monde, champion olympique en relais de natation à Londres, c'était il y a 9 ans. Il a arrêté la natation il y a un peu plus d'un an, juste avant le premier confinement, et ce week-end à Marseille, il a fait son retour pour l'Open de Méditerranée, sa première compétition d'un envergure. Un retour sans pression, mais avec l'envie et l'ambition un peu folle de retrouver, pourquoi pas, les Jeux Olympiques. Jérôme Ball l'a rencontré à Marseille, c'est le long format de ce soir.
Jérémy Stravius ne regrette absolument rien, ni sa retraite à 31 ans annoncée l'an passé, c'était le bon moment, dit-il, ni sa nouvelle vie, loin des médailles et des compétitions partout à travers le monde. Et pourtant, depuis plus d'un an, ce n'est pas toujours facile.
Je vis du chômage aussi. Voilà, je suis chômeur. Il dit. Donc j'espère retrouver un taf avant que la période soit terminée, quoi, parce que ça fait déjà plus d'un an. malheureusement.
Ces projets de reconversion qu'il mûrissait depuis les Jeux de Rio en 2016 sont tombés à l'eau les uns après les autres. Un circuit de cartes, un escape game, la crise sanitaire et économique n'arrange rien. Jérémy Stravius mise maintenant sur l'achat d'un bar dans le centre-ville d'Amiens, sa ville. Malgré tout, le Picard se réjouit de sa deuxième vie.
C'est vrai que je fais des choses que je ne fais pas auparavant, que je n'avais pas pris le temps. J'ai pas pris le temps pour moi, j'ai pas pris le temps pour ma famille, donc c'est des choses qui ont changé depuis un an et ça me fait plaisir. Je me retrouve un petit peu, hein. C'est vrai que là, de voir des personnes que de ma propre famille, vraiment, mes neveux et nièces que j'ai pas eu l'habitude de voir et de passer des vacances ensemble, plus de deux jours, en tout cas, ça change énormément.
Mais l'envie de nager et la saveur des compétitions ont été plus fortes. Jérémy Stravus est devenu conseiller pour les Étoiles, un club privé de la région parisienne. Il s'est lui-même remis à l'eau.
Ça me fera du bien aussi physiquement de retrouver un corps correct aussi, parce que faut dire ce qu'il y a, j'ai pris cher quand j'ai arrêté. Plus 11, ça pique.
11 kilos de trop et un programme forcément plus allégé que quand il était au haut niveau. Il s'entraîne seul à Amiens et une fois par semaine en groupe à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine.
Je vais vous l'avouer, d'aller m'entraîner déjà tout seul, c'est encore plus dur. Après, c'est sûr que quand je vais à Nanterre, c'est plaisant parce qu'il y a un groupe, il y a un collectif et ça m'avait manqué de retrouver des potes en tout cas. C'est ce qui manque un petit peu à tout le monde aujourd'hui, mais alors du coup, dans le sport, encore plus.
Jérémy Stravius se donne encore 3 mois pour retrouver la forme. À l'occasion des championnats de France à Chartres en juin, dernière chance de qualification pour les Jeux Olympiques. Titré à Londres sur le 4x100 mètres en nage libre, il ne s'interdit rien.
Je me refuse à rien. C'est vrai que je ne vais pas y aller pour me dire faire une course et puis voilà quoi. Je vais essayer d'apporter la meilleure performance possible. Si je me sens capable de faire un beau temps, un gros temps et d'accrocher une sélection sur un relais, bah, je ne vais pas me gêner.
Jérémy Stravius se revendique comme un homme libre aujourd'hui, libre de tout sponsor, de tout contrat et loin de l'équipe de France.
J'ai plus envie de voir quelque chose à quelqu'un en fait. Donc voilà, je suis libre de faire ce que je veux et c'est ça qui me plaît aujourd'hui. Pour ça aussi que je suis venu là, c'est que je fais les choses que j'ai envie de faire.
Ce week-end à Marseille, il assume de ne pas être encore très affûté comme pouvait l'être un Florent Manaudou à son retour en 2019. Mais le Picard savoure d'être là, tout simplement.
Jérémy Stravius, la retraite pas toujours dorée d'un grand champion de natation, à retrouver sur franceinter.fr.
Le journal de 19h. Frédéric Barrère.
À suivre la semaine prochaine avec notre agenda des temps forts de l'actualité de la semaine qui vient, avec demain un procès gilet jaune. 10 personnes comparaissent pour le saccage de l'Arc de Triomphe à Paris le 1er décembre 2018. Ces scènes d'insurrection avaient fait le tour du monde et suscité un immense émoi. Le procès débute demain sans les principaux acteurs qui n'ont jamais été retrouvés. Également sur l'agenda judiciaire, le lendemain, mardi, la Cour de cassation rend une décision très attendue 5 ans après la mort de Rémi Fraisse. Un jeune militant écologiste de 21 ans tué par un tir de grenade lors d'affrontements à Sivens dans le Tarn. Un non-lieu avait été rendu en faveur du gendarme ayant tiré la grenade. Autre temps fort de l'actualité de la semaine, mardi, et l'Église contre la pédocriminalité. Les évêques se réunissent en assemblée plénière afin de prendre des décisions permettant de reconnaître la souffrance des victimes. Et puis sur l'agenda rubrique étranger, le rendez-vous à noter mardi également, les élections législatives israélienne. C'est la 4e fois en 2 ans que les Israéliens votent. Des élections à la proportionnelle intégrale avec 30 listes. Frédéric Mettezo.
Extrême droite, droite nationaliste religieuse, droite nationaliste laïque, droite nationale, religieux juif ultra-orthodoxe, centre-droit, centre-gauche, gauche et listes arabes, on trouve de tout parmi les candidats. Mercredi matin, il ne faudra pas regarder les clivages droite-gauche ou religieux laïque, ni même juif-arabe, mais plutôt les blocs pour ou contre Netanyahou au pouvoir depuis 12 années consécutives. 120 sièges sont à pourvoir, la majorité est donc à 61 sièges. Les dissidents de droite oseront-ils s'allier à la gauche pour faire tomber celui qu'on surnomme Bibi? Ou bien au contraire, réussira-t-il encore à débaucher des personnalités du centre et de la gauche, voire des listes arabes, pour rester au pouvoir et ralentir son procès pour corruption? Jérusalem, Frédéric Mettezo, France Inter.
Rendez-vous européen jeudi avec un conseil européen consacré à la vaccination contre le coronavirus. Un conseil, bien sûr, en vidéoconférence. Et puis vendredi, à noter le SIDAction 2021. Et puis ce week-end, deux rendez-vous. Un samedi dans le noir de Sydney à Los Angeles. Les habitants de la planète sont appelés à éteindre la lumière pendant une heure pour attirer l'attention sur la crise climatique. Et puis dimanche, on passe à l'heure d'été. Et à la télévision, c'est le retour de Michel Drucker, 78 ans et après de longs mois d'absence liée à une lourde opération du cœur. Voilà pour l'agenda. On vous propose maintenant d'entendre un témoignage rare en lien avec la campagne de vaccination. Et ce soir, c'est Marie-Lou qui montre l'exemple. Marie-Lou, bientôt 104 ans. Marie-Lou est une figure locale de sa commune d'Isbergues dans le Pas-de-Calais. Comme vous allez vous en rendre très vite compte, Marie-Lou n'a jamais été vaccinée à part le BCG à la communale quand elle était petite fille. C'est donc une grande première à 104 ans. Marie-Lou s'est faite vacciner contre le coronavirus pour montrer l'exemple. Sandrine Houdin l'a retrouvée dans son petit bistrot qu'elle tient depuis 90 ans. Marie-Lou, manche remontée, montre son bras, preuve qu'elle a bien reçu une injection. Témoignage.
Ah, vous m'embêtez avec votre bazar, là. Allez, donnez-moi un coup de main, puisque vous voulez voir. Alors, qu'est-ce que vous voyez ? Il n'y a rien.
Votre vaccin, c'était quoi ? Lequel ?
Pfizer.
Pfizer.
Oh, moi, je vais parler anglais, hein. J'ai rien senti.
Effet secondaire ?
Rien. Rien, mais rien. Mais je ne voulais pas me faire vacciner. Mais j'ai un docteur qui est gentil avec moi. J'ai pu oser y dire non.
Pourquoi vous ne vouliez pas ?
Ben parce que je n'ai jamais été vacciné. J'étais vacciné en étant gosse à l'école, avec une plume, et puis je faisais deux, trois petites griffes.
Et jamais malade, Marie-Lou ?
Non. Et à 80 ans, je n'avais pas couru de docteur. J'ai peur de rien, moi. Si, j'ai peur des chevaux.
Allez, je vous laisse boire votre petit coup.
Ça conserve.
Ça conserve ?
Oui, mais pas beaucoup. Jamais été saoul. Jamais, madame. Et j'ai jamais eu de saoul à mon comptoir. Dégagé. Je les enterre tous, mes clients.
Ah, voilà la copine.
Moi, c'est Marie-Claire. Ah, puis, il faut pas me prendre la photo parce que je suis coiffée comme une betterave montée, chia.
Vous avez été vaccinée aussi ?
J'ai été chmata. Moi non plus, je voulais pas me faire vacciner non plus, mais
pourquoi
là...
Pourquoi ?
Parce qu'on est des vieilles. J'ai 75 ans. J'arrive, hein, Marie-Lou, que veux-tu qu'on va faire ?
Ah oui ? Mon Dieu, il veut pas gâter son savoir, hein.
Pardon, j'ai pas compris, c'est du ch'ti.
Ah, c'est parce que c'est... Mais d'où qu'elle est ? Mais qu'elle aille à l'école ? Ben, maman, ils sont bien, les Parisiens. C'est des cons.
Répétez-moi.
Quand vous arrivez au monde, tout est marqué, hein. Mon Dieu, il a écrit. Voilà. Il veut pas de moi. Il veut pas que j'affiche le bordel dans son bazar.
Il veut pas de Marie-Lou.
Faut être fataliste.
Fataliste ?
Pas un dictionnaire, mon Dieu.
Marie-Lou.
Oui.
Ce qui est dingue, vous allez fêter 104 ans, vous pouvez vous coucher à 3h du mat.
Oui.
Et vous ouvrez tous les matins ?
9h moins le quart. Et en faisant tout à l'envers.
C'est-à-dire ?
Pas de fruits, pas de lait, et la mayonnaise à la cuillère à soupe. Je me suis cassé. Le col du fémur. 8 jours après, je resservais dans mon bistrot. Ah oui. Ils sont toujours en train de pleurer. Et nous, on est toujours en train de rire. Bon.
Mais c'est ça le secret.
Bah ouais. Ça sert à quoi de se lamenter ? À rien du tout, hein. Un couche avant, pas, ça fait deux coups de passé, hein. Marie-Lou.
On est fait comme ça, hein.
Quel chromosome spécial.
Je sais pas, moi.
Bah non, on n'a pas de remède, hein.
Merci pour votre bonne humeur.
Bah que veux-tu ? C'est la vie.
Ah oui.
Si t'as tes chaussettes dans tes talons que ça va pas, faut mettre sa pied au-dessus, puis d'air et demain, ça ira mieux. Bah que veux-tu que tu vas faire de plus ? Puis c'est bon. Allez, quatre Marie-Lou dans bordel. Ça ira mieux demain.
Il faut pas s'en faire.
Et
faire ce qu'on a envie, surtout ça.
Allez, à votre santé, hein.
Voilà, et quelle santé ! Marie-Lou, née en 1917 et vaccinée contre le coronavirus. C'est mon actu, Sandrine Houdin. Témoignages et photos de Marie-Lou à retrouver sur notre site franceinter.fr. Au générique de cette édition, Mathias Saléon et Serge Viguet en régie qui m'ont aidé à préparer ce journal, avec Lionel Thompson à la rédaction en chef, assisté d'Anna Péon et Sébastien Donna. Merci à l'équipe, merci à vous d'avoir écouté ce journal. Le temps pour demain.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Jean-Michel Golinski.
Le soleil en toute région, ce sera pour la journée de mardi, car demain ce sont souvent les grisailles et le ciel chargé qui vont s'imposer sur la plus grande partie du pays, avec tout de même une ambiance nettement plus bleue qu'ailleurs sur les Alpes, la Provence, le Languedoc et le Roussillon, mais avec toujours un mistral et une tramontane très turbulents, à près de 90 km/h. On notera également en journée le retour d'éclaircies sur les régions de l'ouest, plus durables l'après-midi, du nord de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers le Perche et le pays rennais. De faibles gelées sont probables en fin de nuit au nord d'un axe Limoges-Grenoble. Les valeurs de l'après-midi pratiquement stationnaires seront proches de 8 degrés dans le nord-est, de 10 à 14 au nord de la Loire et dans le sud-ouest. Le maximum de 14 à 16 étant réservé au bord de la Méditerranée.
Jean-Michel Golinski de Météo France.